bendiga, amados hermanos, esta tarde.
Que el Señor bendiga esta sesión sexual.
Amén. Gloria a Dios. Hay que animarme, hermano.
Por favor, si no, vas a dormir.
Gloria al Señor, aleluya. Ayer lo vimos a través de la lectura.
Y eso no debe haber en lectura.
De Marcos, capítulo 6, 30 al 44.
Du livre donc, de Marc, chapitre 6, verset 30 à 44. Que Jésus avait fait le grand miracle de la multiplication des pains. Il a alimenté une foule qui avait faim. Et ce miracle s'est produit au milieu d'une situation adverse. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible.
Amen. Jésus
est le même hier, aujourd'hui et au siècle des
siècles.
Ce qu'on essaye de voir, c'est pouvoir voir ce cadre et l'amener à notre réalité. Et voir les situations adverses auxquelles on a à faire face pour accomplir la mission de l'Église. J'essaye de voir les adversités comme des occasions que Dieu nous donne. Les obstacles, des défis. Je ne sais pas si vous connaissez un système d'analyse pour étudier la situation des entreprises, non, c'est ça? Qui s'appelle le FODA. Voilà, pour créer des projets. Ça s'appelle peut-être pas FODA en français d'ailleurs, en fait. Ça rapporte donc avec les forces, les occasions, les faiblesses et les menaces. Si on veut créer un projet et voir combien ce projet est rentable, on a besoin de faire une étude de marché et voir quels sont nos points forts, si on a l'argent pour le faire, quelles sont les possibilités que l'on a. Ensuite, quelles sont les occasions que nous avons. Quels sont nos points faibles et quelles sont les choses qui peuvent être une menace. Et à partir de là, on peut préparer un projet. C'est pouvoir transformer les faiblesses en occasion, en force. Et c'est ce qu'on doit faire quand on voit les difficultés extraordinaires qui existent. On peut avoir une vision pessimiste et se décourager et dire j'ai travaillé dans une église avant d'aller en Cerdagne, ici en France, et pouvoir les sortir à l'évangélisation. Changer cette mentalité. Il faut travailler. Il faut travailler.
Amen. Alléluia.
Comprendre que c'est possible. Que Dieu connaît tout. et qu'il ne nous a pas envoyés pour qu'on soit dans l'échec. On échoue, ça c'est la pensée de l'ennemi.
Nos quiere paralizar.
Il veut nous paralyser.
Que nos quiere mantener desenfocados de la misión principal.
Et il veut nous dévier de la mission principale.
Y comenzamos a vivir una vida cristiana.
Et on commence là à vivre une vie chrétienne
sin compromiso,
sans engagement,
sin obediencia al
sans obéissance à la Seigneurie de Christ.
Ah. Entonces, aquí tenemos los desafíos.
On a là les défis.
Aquí tenemos las dificultades. Bueno, aquí tenemos lo que podemos ver como las grandes dificultades.
On a ce que l'on peut voir comme les grandes difficultés.
Ah, como los grandes obstáculos.
Les grands obstacles.
O como las grandes oportunidades.
Ou les grandes occasions.
Estamos viendo que para que Jesús haga este milagro,
on voit là que pour que Jésus fasse ce miracle,
el escenario era que había una gran multitud.
Le cadre, c'était qu'il y avait une grande foule
que estaba en un lugar desierto,
qui était dans un lieu désert. L'heure était déjà avancée
et ellos no poseían los recursos.
Et ils n'avaient pas les ressources.
Ayer hemos visto,
donc hier on a vu
el desafío de la gran multitud.
Le défi de la grande foule et le défi du lieu désert.
Amen. Para lo que
voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier.
On
a vu donc ces deux défis. Et on a découvert qu'il y a une foule qui a des milliers et des millions de personnes qui n'ont pas été atteints encore. Il y a des nations où l'évangile souffre la persécution, où il n'est pas permis de prêcher l'évangile. Et ce sont des grandes foules.
Y hemos visto también que el lugar donde nosotros estamos,
on a vu que l'endroit où nous sommes,
Francia,
la France,
necesita miles de iglesias,
a besoin de milliers d'églises.
Yo le dije que en Perú hemos trabajado con el objetivo una iglesia por mil personas.
Je disais qu'au Pérou, on avait travaillé donc avec l'objectif d'avoir une église pour 1000 personnes.
En Francia hay una iglesia para 30,000.
La situation actuelle de la France, c'est qu'il y a une église pour 30,000 personnes. Et il y a un projet dont l'objectif est qu'il y ait une église pour 10,000 personnes. Mais c'est encore à l'état de projet. Une église pour 1000 personnes, ça veut dire qu'à Castres, il y aurait besoin de 50 églises. C'est une manière de fixer un objectif. C'est la manière de créer une stratégie. C'est une manière d'impliquer l'Église de manière responsable dans cette mission. Mais c'est nous qui, à la fin, allons être ceux qui allons assumer donc l'engagement. Si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne pourra le faire. Ni les anges même ne le pourront faire. Jésus a dit, si vous ne parlez pas, les pierres parleront. Et c'est terrible qu'une pierre soit plus utile que nous. N'est-ce pas? Donc le défi est là. Les assemblées de Dieu ont créé un projet qui est en marche et qui s'appelle M2. C'est un projet de multiplication et d'implantation d'églises. Donc il y a des choses qui sont en train d'être faites à travers la mission intérieure. Plusieurs efforts d'implantation d'églises sont soutenus. Nous, en Cerdagne,
apoyados por las iglesias de Santa Fe de Dios.
Nous sommes soutenus par les églises des assemblées de Dieu.
Nous sommes apoyados por ustedes.
Nous sommes soutenus par vous.
Ustedes dan ofrenda para que nosotros podamos estar allá en la cercanía.
Vous apportez des offrandes pour que nous puissions être soutenus en
Cerdagne.
À travers la région Midi-Pyrénées.
Entonces, varias iglesias aquí de...
Et il y a plusieurs églises de France. La région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, qui apportent des offrandes pour que des ministères comme le nôtre, qui sont dans un endroit où il faut implanter une église, parce que quand on commence un travail, il n'y a pas de possibilité économique. Donc, au commencement, on a besoin d'aide. Et ce sont les églises qui soutiennent notre ministère dans ce projet d'implantation
d'église.
Et il y a plusieurs endroits comme ça que la mission intérieure soutient. Quel est l'objectif? Implanter de nouvelles églises. Je vous ai dit. On avait visualisé un cercle qu'on avait divisé en quatre qui représentait toute la population mondiale. Et on avait dit que 93% des ressources
están invertidos
étaient orientées
en el segundo cuarto
vers on va dire le deuxième quart de la population mondiale. Mais que la moitié de la population mondiale ne recevait que 7% des ressources qui étaient orientées pour la mission. Il y a une disproportion. Je vous donne un exemple. S'il y a un endroit où il n'y a pas d'église, c'est là qu'il faut attaquer. S'il y a un endroit où il y a une église ou trois églises, donc là il y a déjà un travail. Là il y a des occasions d'évangélisation. Mais dans l'autre endroit, il
n'y
a rien encore. Donc il faut qu'on s'oriente sur cet endroit. Vous vous rendez compte comment on peut faire une analyse et avoir une motivation correcte et appliquer la stratégie dirigée par l'Esprit de Dieu pour atteindre les objectifs, afin que ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu puissent entendre la parole de Dieu. C'est une grande foule. C'est une grande foule. Des milliers et des milliers de personnes. Et on a vu que cette foule est dans un lieu désert. Avec peu de possibilités pour que ces personnes puissent trouver Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils le cherchent, mais d'une mauvaise manière. Une fois, j'entendais un pasteur dire « Les gens ont tellement soif qu'ils peuvent boire n'importe quelle eau. » Le postmodernisme a apporté une manière de vivre différente en ce qui concerne la spiritualité. Le modernisme
era...
c'était le Dieu raison, le Dieu de la connaissance. C'était le Dieu science. Tout doit être expliqué. Mais le postmodernisme a ouvert les portes à une spiritualité. Mais une spiritualité très subjective.
La question est croire.
La question c'est de croire.
N'importe qui crée.
Peu importe en quoi tu crois.
C'est bien dans la pellicule Avatar.
Si vous avez vu par exemple le film Avatar,
non. Le dieu arbre.
Ce dieu arbre. En fait, c'est le retour des mythologies.
C'est important de
croire. C'est important de croire.
La spiritualité non est mal.
La spiritualité, c'est pas mauvais. Il faut revenir à la spiritualité. Mais de n'importe quelle manière. C'est pour ça que le nouvel âge, la scientologie, ce sont des mouvements. C'est incroyable. J'étais dans une réunion comme celle-ci. C'était en Suède. Et il y avait une femme qui donnait un témoignage. Elle était infirmière. Et elle avait été invitée par un groupe d'amis pour faire une retraite spirituelle. Donc ils sont allés dans la campagne. Et chacun a cherché un arbre. Et ils ont commencé à parler avec l'arbre. À prier à l'arbre. Et vous savez ce qu'ils disaient à l'arbre ? Rien, 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 rien. C'était tout. Et ils disaient, ces gens-là, qu'ils sentaient une profonde paix. Ça, c'est le monde postmoderne qui reconnaît que la spiritualité est importante, mais qui sont errants parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent au mauvais endroit? Parce que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'Église, n'ont jamais entendu l'Évangile. Ou alors ils ont une idée distorsionnée de l'Évangile, de Dieu, de l'Église. Ils ne trouvent pas de réponse. Vous savez que l'industrie de la sorcellerie représente une puissance économique très forte en Europe. La pornographie, le trafic humain, la sorcellerie produisent des gains énormes qui représentent des puissances économiques. Ils ont, les sorciers ont même des satellites de télévision, des magasins. C'est une industrie rentable. Parce qu'ils sont devenus une voie dans ce désert. C'est l'endroit où Dieu nous a envoyé travailler. Maintenant, écoutez le défi suivant. L'heure était avancée. Déjà en train de faire sombre.
On va lire la Bible.
On va lire la Bible. Dans Romains, au chapitre 13,
versets
11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les ténèbres sont en lien avec tous les désordres du péché. Je vais lire un autre passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Était la capitale de l'Empire assyrien. Quand on connaît un peu l'histoire de qui étaient les Assyriens, c'était les gens les plus méchants et cruels. L'armée assyrienne, c'était une armée cruelle. Et surtout cruel envers le peuple de Dieu. Si un jour vous avez du temps, lisez le livre de Nahum. C'est un livre qui parle contre la Syrie. C'est une prophétie contre la Syrie. Et vous allez voir là comment la prophétie décrit l'Empire assyrien, la méchanceté et les choses qu'ils faisaient. L'histoire dit que les Assyriens, lorsqu'ils battaient une autre armée, ils les menaient prisonniers, ils les emmenaient au désert, ils leur brisaient les jambes, ils leur arrachaient les yeux et ils les abandonnaient là. Pour qu'ils meurent lentement. Ils étaient célèbres pour être une armée cruelle. Ils ouvraient le ventre des femmes enceintes pour leur enlever l'enfant. Ils arrachaient les yeux des parents et ils coupaient en morceaux les enfants. Et les parents entendaient le cri de leurs enfants. C'était les Assyriens. Quand Dieu dit à Jonas, va prêcher à Ninive. C'était terrible. Va prêcher à Ninive. Va et annonce contre elle le jugement. Et au lieu d'aller en direction de Pucerna, il est allé en direction de Paris. Parce que pour lui, les gens de Ninive ne devaient même pas entendre parler de l'amour de Dieu.
Quand Dieu, quand le prophète
prophète reproche à Dieu d'avoir fait sécher le ricin, Dieu lui dit, tu te plains pour un ricin. Et tu as de la compassion pour ce ricin. Et le Seigneur dit à Jonas, et je n'aurai pas moi compassion de Ninive, où il y a 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer entre leur main droite et leur main gauche. Vous pouvez imaginer cette description, le degré d'obscurité, le degré de ténèbres dans lesquels ils vivaient. C'est ça l'humanité. Il y a des choses qui font même honte de pouvoir dire depuis un pupitre, de dire depuis une estrade, de la manière de vivre de l'humanité. Mais c'est terrible. Sont loin. Il veut tout briser. Pas de normes. Pas de bien, pas de mal. Et ça avance. Les concepts de famille, les concepts de mariage deviennent des lois. On sait tous de quoi je parle. Vous vous rappelez de l'histoire de DSK? Une pauvre femme qui nettoyait un hôtel. Il faut avoir vraiment la tête malade. Aujourd'hui, les grands scandales qui sont dénoncés d'abus sexuels, c'est un monde qu'on ne connaît pas, nous. Parce que nous sommes enfants de lumière. Mais les ténèbres, c'est terrible. Et c'est comme ça qu'ils vivent. L'heure est avancée. Il n'y a plus de temps. Si on ne fait pas quelque chose, les ténèbres couvriront leur tête, leurs pensées. Les mèneront à vivre dans l'erreur. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, elle resplendit dans les ténèbres. L'évangélisation, c'est ça. C'est éclairer. C'est amener la lumière. Si ici tout était ténèbres, on allume là une allumette. On allume la lanterne là du portable. Et au milieu des ténèbres, cette lumière-là, elle resplendit. À l'université, au milieu de 1000 élèves, tu dois être la lumière. Dans ta famille, tu dois être la lumière. À casa, l'église doit être la lumière. Elle ne doit pas se cacher. Il ne faut pas qu'on ait peur. société
está en
elle est en décomposition. Notre société, et vous savez qui nous gouverne, ceux qui font les lois, ceux qui ont l'argent. Sur notre nation. Mais il y a aussi des lumières. Il faut sortir les lumières. Il faut éclairer. Il faut briller. La lumière fait ressortir l'état des choses. On a une grande mission ici à Castres. Les ténèbres avancent.
Pero la iglesia se está levantando.
Mais l'église se lève.
Le Seigneur dit, Juan 9:4, la noche viene donde ya no podamos trabajar.
Jean,
9:4.
Au chapitre 9 et au verset 4, nous dit que les ténèbres avancent. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut qu'on se revête des armes de la lumière et qu'on resplendisse. Tu es la lumière. Tu es la lumière.
N'aie
pas peur.
Que nadie te quitte ton brillo.
Que rien n'enlève ton éclat.
Que nadie apague tu luz.
Que rien n'éteigne ta lumière. À l'université. Au travail. Au milieu de la foule où tu es. Ce ne sont pas les ténèbres qui vont t'éteindre. C'est ta lumière qui va resplendir.
Alléluia.
Et la France est une occasion extraordinaire de briller, d'éclairer. Je raffole de votre enthousiasme.
Palabra,
Dieu me dit par sa parole
que, la luz,
que je suis la lumière,
que las tinieblas résurrection.
Oui. Aujourd'hui.
Hoy es el tiempo de predicar.
Aujourd'hui, c'est le moment de prêcher.
Hoy.
Aujourd'hui.
Alléluia, tiene que tener un
meta. Il faut que vous ayez des objectifs.
Dios, pido, mi amigo.
Seigneur, je te demande pour mon ami. Je te demande pour ma famille.
Yo lo pongo delante de
Seigneur,
ti.
Je le place devant toi.
Pido por su salvación,
je te demande pour son salut,
yo
Seigneur.
Te pido que él sea salvo,
je te demande qu'il soit sauvé, Seigneur.
Si es posible, doblar tu rodilla.
Prie tes genoux si tu peux.
Consagrarte en ayuno y oración.
Consacre-toi dans le jeûne, dans la prière.
Aleluya, aleluya. Y tú vas a ver la gloria de Dios.
Et tu vas voir la gloire de Dieu.
Tú vas a ver cómo esa gente se va a convertir.
Tu vas voir comment ces gens vont se convertir.
Porque hoy es el día de la...
Parce que aujourd'hui c'est le jour du salut.
El tiempo de la tiniebla.
C'est pas le temps des ténèbres.
Por eso Cristo dijo.
C'est pourquoi Jésus a dit.
O San Pablo dijo.
Pardon, Saint Paul a dit.
A tiempo y afuera de tiempo.
Que ce soit le temps ou pas, une bonne occasion ou pas, pardon. On doit prêcher que ce soit une bonne occasion ou pas. Profite des occasions. La France a besoin du message que Dieu nous a donné, de la lumière que nous avons. Et les ténèbres reculeront.
Amen. Vamos a ver el otro desafío.
On va voir l'autre défi.
El desafío de los escasos recursos.
Le défi des faibles ressources.
Nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos cómo alimentar.
On n'a pas moyen d'alimenter une telle multitude. 200 deniers de pain ne suffiraient pas. On n'a pas. Cependant, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand on décrit les difficultés, et qu'on regarde les difficultés, il va exactement nous arriver ce qui est arrivé au peuple d'Israël face à Goliath. On va être intimidé. Je connais beaucoup de villes. J'ai visité de nombreuses églises. Et j'ai essayé de motiver à l'évangélisation. Et c'est vrai que l'Église est intimidée. Évidemment, l'ennemi a travaillé. Et parfois, il nous fait rappeler qu'il a la puissance, que c'est lui qui commande. Voyez comment l'islam a avancé ici en Europe, les musulmans. J'étais dans une ville qui s'appelle Miramas. À l'époque, c'était le pasteur Daniel Chou qui s'occupait de cette annexe. Et il me disait, on voudrait faire une mission là. C'était une annexe. Il disait, on voudrait que tu prêches dans une campagne d'évangélisation. Là. Alors je dis, ouais, d'accord, ok, très bien. Et bien, je suis allé parler au maire pour qu'il nous prête une salle municipale. Et la première question qu'il m'a posée, c'est combien vous êtes? On est une vingtaine ici sur Miramas. Il me dit, mais c'est pas possible. Ici, il y a 45% de musulmans. Le pays de la laïcité. Aujourd'hui, je regardais quelque chose. Comment les policiers... interdisait à un jeune de jouer d'un instrument de musique dans la rue. Et il y avait une autre photo dans la rue, des centaines de musulmans en train de prier et la police qui veillait sur eux. Quand on voit ça, on est intimidé. Et l'ennemi nous envoie un message. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas les ressources. Et ça, c'est un mensonge du diable. Parce que Dieu nous a tout donné. La nature de l'Église, elle est spirituelle. N'est-ce pas? Ce n'est pas une institution humaine. Elle ne répond pas à des directives humaines. L'Église, elle a une origine divine. Et le sens de la puissance de l'Église, c'est une autorité. Mais c'est une autorité spirituelle. Et ça, il faut qu'on le prenne en compte. Savoir quelle est notre identité. Parce qu'en découvrant notre identité, on saura aussi les ressources que nous avons. Mais quand on se regarde nous-mêmes, alors on dit, on ne peut pas. Dieu dit à Moïse, va sortir mon peuple. Et Pharaon, c'était l'homme le plus important, le plus puissant, celui qui dominait tout un empire. Va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Quelle est la réaction de Moïse? Je peux pas. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Une verge, un bâton. Ce n'est pas ce que tu as, c'est ma puissance. La puissance de Dieu s'est manifestée dans ce bâton. Tu dis, j'ai pas. Ou tu dis, ce que j'ai, c'est pas important. Gédéon, il disait, je suis le plus insignifiant dans ma famille. Élie dit à la veuve, qu'est-ce que tu as? J'ai juste un peu d'huile et un peu de farine. Et avec ce peu de farine, ce peu d'huile, un miracle s'est produit. De 5 pains et de 2 poissons. Il s'est produit une multiplication, un miracle. Qu'est-ce que tu as? Les retraités, ils seront utilisés par Dieu.
Alléluia! Gloire à Dieu!
Gloire à Dieu!
Amen!
J'ai connu un homme,
Mariano Rodriguez,
Mariano Rodriguez,
70 ans,
70 ans.
Il
était en train de mourir sur un lit d'hôpital. Et une femme qui visitait les hôpitaux est allée parler à Mariano Rodriguez. Et elle lui a lu une portion du Nouveau Testament. Et elle lui a parlé de l'amour de Dieu. Du Dieu qui guérit les malades. Mariano Rodriguez a dit, mais femme, si c'est vrai ce que tu dis, alors demande à Dieu de me guérir. Et si Dieu me guérit, je ne vivrai plus pour moi-même, je vivrai pour Dieu. Quand moi je l'ai connu, il avait 74 ans. Il avait implanté 5 églises. Et tu vas me dire que tu ne peux pas. Que tu es malade. Tu peux. Prends des forces. Prends le défi. Tu peux. Tu peux. Parce que Dieu regarde l'éternité de nombreuses personnes à travers ton témoignage, à travers ta lumière, à travers ton message. Tu peux. Mais ne te regarde pas toi-même. Parce que si tu regardes, si tu te regardes toi-même, alors tu vas échouer. Parce qu'en toi, il n'y a pas la puissance. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu.
Alléluia. Amen.
Nous pouvons tous être utiles entre les mains de Dieu. Mais parfois on pense ici pour faire quelque chose. Je viens d'un autre pays. Et c'est un autre système. Évidemment, je ne vais pas imposer le système du Pérou ici. Mais dans le domaine spirituel, la foi rend possible de trouver les moyens. Une foi responsable, pas une foi désordonnée. Pas faire les choses comme ça, à la va-vite. Je crois que Dieu a ce qui est suffisant. Mais le grand problème que Dieu a, c'est quand nous nous installons dans nos pensées ce « je ne peux pas, je ne peux pas ». L'église où je travaillais avant, j'essayais de les motiver. Il faut qu'on sorte. Ah non, non, la France, c'est pas possible. Jusqu'à ce que, peu à peu, ils ont compris. Et cet endroit où il y avait l'église, on a été mettre des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres. Dans toute la ville. On priait pour les gens. Et il y avait des gens qui nous appelaient après. Venez prier pour moi. Venez faire une réunion ici. C'est possible, la France. Si on reste installé avec cette pensée qu'on ne peut pas, jeudi, je disais à l'église, nous serons l'église que nous voulons être. Ça dépend énormément de nous. Dieu va être avec nous. Il aime l'église. mais ça dépend de nous. Et je vous ai dit que l'Église en ce moment est dans un mois de jeûne et prière en chaîne. On veut que la puissance de Dieu se manifeste. On veut voir des miracles. Quand on est arrivé pour travailler là-haut, il y avait un homme qui était en train de mourir. Il avait déjà été induit en coma parce qu'il ne supportait pas les douleurs provoquées par une pancréatite. Il disait que son pancréas était dur comme une pierre. Et les médecins l'avaient condamné. Il disait, il n'y a plus de possibilité. Et on nous a demandé d'aller prier pour lui. Quand on est allé prier pour lui, il était branché de partout et dans le coma. Mais on a prié quand même dans cette situation. Que Dieu ait compassion, que Dieu le relève, que Dieu fasse un miracle. Deux jours plus tard, cet homme est sorti du coma. Quatre jours plus tard, ils l'ont débranché. Aujourd'hui, c'est un homme qui s'est fait baptiser. Alors, on arrive au quatrième défi. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous le voulons? Parce que nous avons l'eau de la vie. Parce que nous avons le pain de vie. L'Évangile nous a été confié à nous. À nous. C'est quoi l'Évangile? La bonne nouvelle. Ok. C'est quoi la bonne nouvelle? Si je dis, je vais voir là une personne et je lui dis, monsieur, voilà, je veux vous parler de l'Évangile.
Allez,
dites-moi, c'est quoi?
Les
bonnes nouvelles.
C'est-à-dire?
Ok, c'est-à-dire?
Dieu est vivant.
Dieu est vivant. C'est quoi l'Évangile? Ça, c'est vraiment important. Vous comprenez? Si vous ne savez pas ce qu'est l'Évangile, qu'allez-vous communiquer? L'Évangile, c'est un message. Et c'est un message qui est complet. C'est un message qui est clair. Quand je dis, je vais t'annoncer l'Évangile, il faut que je sache ce que c'est l'Évangile. Et là, souvent, on a un problème. Je vais vous dire ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'annonce
de
la victoire de Jésus
sur le diable,
sur le pecado,
sur le péché,
sur la mort, sur les maladies, sur les démons. Vous me comprenez? Si vous ne dites pas cela lorsque vous annoncez l'Évangile, c'est un évangile différent ou un faux évangile. Parce que l'Évangile, ce sont les bonnes nouvelles. Ok, mais c'est quoi ces bonnes nouvelles? Si je vais chez toi et je te dis, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter. Tu vas me dire, oui, c'est quoi la bonne nouvelle? Donc quand on dit que Dieu nous a confié l'Évangile, esos
elementos,
ces éléments-là,
tienen que estar en
él. Il faut qu'il fasse partie du message. Quand vous annoncez cela, parce que quel est le problème de l'homme? Le péché. Pourquoi il y a des ténèbres? Pourquoi est-ce qu'il y a du désert? Pourquoi est-ce qu'il y a une foule qui a faim? On est en train de parler de la réalité spirituelle, n'est-ce pas? L'Église, c'est la réponse à cette misère-là. À travers l'Évangile. Donc, quel est le problème de l'homme? Le péché. Oui, mais le péché, il y a quelqu'un qui le dirige. Qui s'appelle le diable. Et quand l'homme pêche, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Donc les trois grands problèmes de l'homme qui agissent dans le royaume des ténèbres, c'est le diable, le péché et la mort. Donc Jésus-Christ est venu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Et quand il a achevé son œuvre et qu'il nous a envoyé annoncer l'Évangile, c'était les vérités que nous devions communiquer. Le diable a été vaincu. Le péché a été pardonné. Et la mort n'a plus de puissance. Parce que celui qui croit en Christ, même s'il était mort, il vivra. C'est ça l'Évangile. Ce qui se passe, c'est que, ben, par exemple, si le pasteur me dit, je veux que tu prêches l'Évangile. Quelle que soit l'histoire que je vais prendre, il faut que ces éléments soient présents dans ma prédication, dans mon message. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Quand Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, il faut qu'on leur donne à manger. L'Évangile, Éphésiens 3:20. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans la version espagnole, il est dit et celui qui est puissant pour faire toutes choses
de lo que pedimos o pensamos,
bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons,
según el poder que actúa en nosotros,
selon la puissance qui agit en nous, ou comme il est décrit, par la puissance qui agit en nous.
Si usted entiende bien este verset,
si vous comprenez bien ce verset,
dice,
ce passage nous dit exactement ceci. Que Dieu peut faire toutes choses. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Toutes choses. Tout. Dieu peut tout faire.
Amen.
Il peut faire lever des pasteurs. Il peut faire que des nouvelles églises soient implantées. Il peut sauver des multitudes. Dieu peut tout faire. Cependant, il dit là qu'il peut tout faire puissance. Allez, vas-y, dis-moi. En moi. Non, en moi. Tu vas être évangéliste. Mais il faut que tu prennes courage. Dieu peut tout faire. Mais il le fait à travers la puissance qui est en nous. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez des démons. La puissance est en nous. On ne doit pas attendre quelqu'un qui vienne d'Amérique latine ou d'Afrique. Non. La puissance est en nous. C'est pour ça que je vous dis, si vous saviez qui vous êtes, l'espérance de la France, elle est exactement assise sur votre chaise.
Pas loin.
Elle n'est pas très loin. Seigneur, envoie, amen. C'est nous. Castres pour Christ. Ça vient. Alléluia. Selon la puissance. Pourquoi est-ce que Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger? Parce qu'il sait qu'ils sont la réponse. Nous, l'Église, on a la puissance de Dieu. Il nous a été confié l'Évangile. Les dons spirituels se manifesteront dans son Église. De quoi a-t-on besoin? De prendre courage, d'accepter le défi et de sortir évangéliser. Et on va voir les miracles. Argentine, Carlos Anacondia. Il était diacre dans son église. Et il faisait partie d'un groupe qui visitait les hôpitaux. Et Dieu a commencé à utiliser cet homme d'une manière extraordinaire. La puissance de Dieu est venue sur lui. Et de cet hôpital, les gens, ils sortent. Ils sortaient de la guérille alors qu'ils avaient l'oxygène, tout, ils étaient branchés avec leurs vêtements de malade. Dieu a commencé à faire des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que la puissance est en nous. Il faut qu'on laisse agir cette puissance. Il faut qu'on manifeste cette puissance. L'évangélisation, c'est une bataille frontale contre la force de l'ennemi. C'est pour ça que les églises doivent être entraînées dans l'évangélisation, formées dans l'évangélisation, dans la bonne doctrine, dans le bon enseignement, et s'engager d'une manière responsable dans la tâche de l'évangélisation. Nous sommes une église. Il y a un pasteur. Dieu lui a donné l'autorité. Et cette autorité, elle va être déléguée à l'église. À travers la personne que Dieu et travailler dans la soumission dans le royaume de Dieu, les choses se manifesteront. Mais parfois, on perd beaucoup de temps dans des discussions, dans des choses superficielles, centrons-nous sur l'essentiel. Nous sommes la réponse de Dieu aux problèmes qu'il y a. Dans le chapitre 15 de Jean, et au verset 26 et 27, il est dit ceci: quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il parlera de moi. L'Esprit Saint que j'enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il parlera de moi. Les 9 dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, la majeure partie d'entre eux se manifeste par la bouche, parole de connaissance, parole de sagesse, don de foi, don de prophétie, don de diverses sortes de langues, don d'interprétation des langues, don de puissance et de miracles. La majeure partie des dons, ils s'activent par la bouche. Si tu dis à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, pourquoi lui demandes-tu de te remplir du Saint-Esprit? Vous savez, quel est notre problème souvent à nous les pentecôtistes? C'est qu'on veut que le Saint-Esprit nous baptise pour parler en langue. Mais c'est pas ça. L'Esprit Saint, il te baptise pour que tu parles en français de Jésus aux autres. Je ne dis pas que le parler en langue c'est mal. Pas du tout. Mais que ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est une manifestation. Que Dieu te remplit du Saint-Esprit. Et c'est une merveilleuse expérience. Et je voudrais que tous en aient cette expérience. Mais ce n'est pas l'objectif. Il parlera de moi. Il rendra témoignage de moi. Je priais le Seigneur. Je disais: Père, remplis-moi ton Saint-Esprit. Remplis-moi ta puissance. Ok? Je vais te donner la puissance. Après, moi, je m'asseyais dans le bus. Et Jésus me disait: parle à cet homme qui est à côté de toi, de moi.
C'est pas possible, c'est difficile.
Tu m'as dit de te remplir de l'Esprit. L'Esprit est en toi. Et il veut parler de Jésus. Quand une personne parle de Jésus, c'est parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Quand une personne ne parle pas de Jésus, avec la Rochelle.
Allez, allez, Pasteur, allez les bleus.
Allez, casse. Ok. On peut aimer certaines choses. Mais le principal, c'est parler de Jésus. Quand on est rempli de Dieu, on va parler naturellement de Jésus. Parle de Jésus. Et l'Esprit Saint, il veut parler de Jésus. Tu te rappelles quand il y a eu l'expérience de la Pentecôte? Acte 2-4. Et lisez là ce qui a marqué, là, acte 2-4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans la version espagnole, il est dit, il donnait les paroles que l'Esprit mettait dans leur bouche. Si quelqu'un vient à la maison, il commence à dire, oh, mais le frère Martel, oh, le pasteur, suis-je rempli de n'importe quoi?
Está lleno de couscous.
Il y a un peu de couscous.
Pero si está lleno del Espíritu Santo.
Mais s'il est rempli du Saint-Esprit.
El Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca.
L'Esprit Saint va mettre des paroles dans ta bouche.
Y vas a hablar de Jesús.
Et tu vas parler de Jésus. La France a besoin d'une église remplie de l'Esprit de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu.
Amen.
Qui donnera à manger à la multitude. Qui changera le désert en une vallée verdoyante. C'est la promesse de Dieu. Je restaurerai les temps que la chenille a dévorés. Je restituerai ce que la sauterelle a dévoré. Et j'apporterai un temps nouveau. Je veux vivre un temps nouveau dans cette nation. Je crois que la France va être visitée par la puissance de Dieu. Je veux qu'une église. Je crois en une église qui va acquérir l'identité de Dieu, la nature spirituelle de Dieu, qui ne se laissera pas intimider par qui que ce soit. Et chaque pas qu'elle fera, pour petit qu'il soit, ce sera un pas vers l'avant. Ce sera un pas vers l'avant, conquérant le territoire que le Seigneur nous a livré. La France sera pour Christ.
La France sera una tierra de avivamiento.
La France sera un territoire de réveil.
La France expérimentera.
La France expérimentera.
El poder de Dios.
L'effusion de la puissance de Dieu.
Ese poder estará en nosotros.
Et quand cette puissance sera en nous, l'onction de Dieu se manifestera. Je vais lire le dernier verset. Et ensuite on va prier. On va lire dans Ésaïe chapitre 10 et verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. J'aime la version espagnole de ce verset qui est différente. Parce que dans la version française, il est marqué donc la graisse fera éclater le joug. Dans la version espagnole, il est dit l'onction brisera le joug. L'onction,
la graisse,
ça avait rapport avec l'huile. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Dans la version espagnole, ils ont abandonné la graisse, ils ont pris donc le symbole, l'onction. L'onction pourrira le jour.
L'onction
fera éclater le jour. C'est quoi l'onction? Souvent, il y a beaucoup de confusion par rapport à l'onction. Et parfois, on a entendu des choses qui n'ont rien à voir avec l'onction. Parfois, on voit des gens par terre et il y a des gens qui disent « Ah, il est sous l'onction !» Mais ce n'est pas l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une distinction qui reflète ton autorité. Par exemple, tu conduis ta voiture. Tu vois une voiture avec un gyrophare. Et il y a un homme en uniforme qui te fait un signe de la main. Qu'est-ce que tu fais? Et tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité. Et comment tu sais que c'est une autorité? Mais si tu vas sur la route et c'est un homme en pyjama qui apparaît,
c'est pas la même chose, non?
Là, c'est pas du tout la même chose. L'onction, c'est cette investiture d'autorité. Les gens qui voient cela, on est en train de parler là du monde spirituel. Les gens qui voient, ils le reconnaissent et ils obéissent. Vous comprenez? Quand le démon voit un homme qui a l'onction, parce que c'est un voleur, l'onction brisera les puissances des ténèbres, les puissances du péché, les puissances du diable. L'onction, l'évangélisation, elle doit se faire dans l'onction de Dieu, dans l'autorité, dans la puissance. Un jour, l'évangéliste Moody était dans une ville. Il y avait un ivrogne qui a commencé à crier après lui. Il lui dit, Moody, regarde, hier soir tu m'as converti. Hier soir j'étais dans la campagne. Et tu m'as converti. Et regarde comment je suis aujourd'hui. Il se moquait de Moody. Et Moody s'est approché et lui a dit, c'est vraiment dommage que ce soit moi qui t'ai converti.
hubiera convertido al Espíritu Santo.
Parce que si c'était le Saint-Esprit qui l'avait fait,
ya no estaría en esa vida de
miseria. Misère.
¿Entiende la diferencia?
Vous comprenez la différence? On a besoin de cette puissance. La puissance de Dieu. Nous sommes les assemblées de Dieu. On parle d'une identité pentecôtiste. Nous croyons dans les manifestations de la puissance de Dieu. Il faut qu'on cherche cette puissance. Il faut qu'on vive dans cette puissance. Amen, alléluia. Pliez les genoux. Demandez à Dieu. Et ne pas s'arrêter jusqu'à obtenir l'évangélisation prophétique. C'est l'évangélisation qui se réalise dans la manifestation des dons spirituels. Sinon, c'est simplement une activité. Dieu veut nous donner des paroles de sagesse. Dieu veut nous donner des paroles de connaissance. Dieu veut nous donner des paroles de foi. Dieu veut nous donner des paroles de prophétie. Regardez Jésus avec la femme samaritaine. C'était difficile. La femme, elle posait des questions par-ci, des questions par-là. Jusqu'à ce que Jésus lui donne une parole de connaissance. Tu as bien dit. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Parole de connaissance. Le geôlier de Philippe. Il est sur le point de se tuer. Et Paul dit, il demande à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Il allait se tuer. Paul dit, non, ne te fais pas de mal. C'était vraiment un moment crucial. Mais que dois-je faire? Crois dans le Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta maison. Parole de sagesse. Il y a des gens qui sont dans la confusion. Il y a une parole que l'Esprit veut mettre dans ta bouche. Une parole de connaissance. Une révélation. Une parole de foi. D'espérance. Un miracle. Les dons spirituels. Ce sont les manifestations de cette autorité. De l'onction que Dieu nous a donnée. La France a besoin de nous. Il y a une grande foule. Il y a beaucoup de besoins. Je voudrais prier. Je voudrais que Dieu ce soir répande son esprit. Je voudrais que ce soir tu demandes à Dieu de te remplir de sa puissance, de manifester son Saint-Esprit. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui appelle, celui qui frappe, il lui sera ouvert. Si les pères terrestres savent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dis au Seigneur maintenant, Seigneur.
Estampa la eternidad en mis ojos.
Grave l'éternité dans mes yeux.
Para entender el valor de una alma.
Pour comprendre la valeur d'une âme.
Señor, yo quiero ser un instrumento.
Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Seigneur, je veux être un instrument d'évangélisation. Je veux faire partie d'une église qui aime les âmes qui se perdent. Je veux vivre, Seigneur, pour voir ton royaume avancer, pour voir des âmes sauvées, pour voir l'église se multiplier, la naissance de beaucoup d'églises. Seigneur,
dame tu poder.
Donne-moi ta puissance. Donne-moi ton autorité. Donne-moi ton
onction.
Ce soir, je te le
demande. En el
nombre de Jésus.
La
parole dit
que, cuando tú te
manifiestes, que lorsque tu te manifesteras,
alléluia, 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 entonces bautizarás con Espíritu Santo y fuego.
Tu baptiseras d'Esprit Saint et de feu. Et tu es là, Seigneur.
Santo.
Vous n'avez pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Que vous voulez que ce soir Dieu vous baptise dans le Saint-Esprit. Venez ici sur le devant. Je vais prier pour vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne parlez plus en nouvelle langue.
Que Dios lo renueve.
Et vous voudriez que Dieu vous renouvelle.
Aquí adelante.
Venez sur le
devant. Por usted.
Je vais prier pour vous.
Para que Dios manifieste su poder sobre su vida.
Sa puissance.
No tenga vergüenza, no tenga miedo. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Pídale al Señor, el Señor me va a dar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Rabacanda, la Rabasama, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Glory, Barabanda, la Rabasama, Canderel, y Barabasola. En el nombre de Rabasola, Candela, la Rabasola, la Rabasola. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, riba candara la rabasama, aleluya. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida. Dios quiere llenarte de su autoridad, de su poder. Eres el mismo, aleluya, aleluya. Oh, riba candara la rabasama. Oh, aleluya, 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 aleluya. Si usted quiere, venga aquí adelante.
Si vous le voulez, venez sur le devant.
Dios lo va a renovar.
Dieu va vous renouveler.
Dios lo va a restaurar.
Dieu va vous restaurer.
Dios le va a manifestar.